Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio, 1877-827-2346.
Est-ce que vous avez déjà entendu parler de l'arnaque de la taxe carbone? Avant de rencontrer notre invité, je vais mettre la table et vous expliquer ce qu'il en est parce que c'est assez complexe. C'est l'un des plus gros scandales financiers de l'histoire de France, sinon le plus gros. Il y a même des gens qui disent que c'est le scandale du siècle, la fraude du siècle. Une arnaque qui a coûté des gonzillions d'euros à l'État français. Voici comment ça se passait. Alors, bon, vous connaissez le marché du carbone. On assigne à des entreprises un volume X de gaz carbonique qu'elles peuvent émettre dans l'air. Par exemple, je dis n'importe quoi, telle entreprise, 15 tonnes de gaz carbonique que vous pouvez émettre dans l'air par année. Si les entreprises veulent dépasser leur quota annuel de gaz carbonique, elles peuvent acheter des quotas supplémentaires à des entreprises qui, elles, n'ont pas émis tout leur gaz carbonique. Est-ce que vous comprenez, là? J'ai dépensé tout mon gaz carbonique et pas toi. Eh bien, tu peux me vendre ta part de quota qu'il te reste. Les entreprises achetaient en quelque sorte un droit de polluer. En France, si tu achetais des quotas carbone dans un autre pays de l'Union européenne, par exemple en Suède, en Italie, en Espagne, tu payais pas de taxes. Mais toute transaction de quotas effectuée sur le territoire français était, elle, soumise à une taxe de 20 %. C'est ce qu'on appelle là-bas la TVA. Alors, ceux qui ont fait des fraudeurs particulièrement malins, particulièrement futés, particulièrement intelligents, qui ont vu une faille avant même que les États reconnaissent l'existence de cette faille-là, c'est qu'ils ont créé des sociétés bidons. Ils achetaient sans taxe des quotas carbone dans un pays autre que la France, la Suède, l'Italie, l'Espagne. Il revendait ses quotas des entreprises françaises en appliquant la taxe de 20 %. Et là, bien sûr, le 20 % qu'ils ajoutaient au prix du quota, ils devaient le verser à l'État français. C'est comme la TPS et la TVQ au Québec. Si j'ai une entreprise, moi, et je perçois la TPS et la TVQ pour l'État québécois, ben, je dois reverser ces montants-là de la taxe que j'ai perçue. Je dois reverser à l'État. Ces gens-là disaient, bon, je vais percevoir la taxe de 20 %. Mais je ne l'enverrai pas à l'État, je vais regarder dans mes poches. Donc, ils achetaient, mettons, des quotas en Suède pour 1 million de dollars, revendaient ces quotas-là à un marché français, à une entreprise française, une demi-heure plus tard, maximum, pour 1 million 200 000 dollars. Résultat, ils se mettaient 200 000 dollars dans leur poche. Et là, je dis en quelques minutes, mais c'était même en quelques secondes. Et c'était versé automatiquement, pouf, dans le compte de la compagnie bidon. Ils faisaient ça 5, 10, 20 fois par jour. Après quelques jours, ils fermaient l'entreprise bidon qu'ils avaient créée, puis ils en créaient une autre avec un autre nom, puis ils recommençaient leur manège. C'est une histoire passionnante. Je suis obsédé par cette histoire-là. C'est ainsi qu'un petit groupe de fraudeurs ont pu encaisser des gonzillions d'euros en quelques mois. J'ai en studio avec nous un des cerveaux, sinon le cerveau de ce groupe de fraudeurs, Grégory Zaoui. Bonjour, M. Zaoui.
Bonjour, merci de me recevoir.
Merci. Comment se fait-il que des gens qui n'ont pas vraiment d'expertise en finance internationale puis tout ça, bon, j'ai vu le documentaire disponible sur Netflix, regardez ça à la maison, Les Rois de l'arnaque, vous allez vous pincer aux cinq minutes en disant, mais ça se peut pas, je crois pas ce que je suis en train de voir. Il y a des gens là-dedans, dans ce groupe, c'est pas le cas de M. Zaoui, mais il y a des gens dans ce groupe de fraudeurs-là qui étaient presque illettrés, là, incultes, et qui connaissaient pas grand-chose, et qui ont réussi à frauder les États de l'Union européenne. Comment ça, vous avez perçu cette faille-là, alors que les gens qui ont mis en place ce système-là l'avaient même pas vu?
En fait, si vous me permettez, je vais reprendre un peu ce que vous avez dit, okay. Parce que, en fait, ça va au-delà de ce que vous avez dit. En termes de paiement de la taxe, de la facture qui est présentée avec la TVA. on vend des fins. Enfin, moi, en ce qui me concernait, comme j'étais un des premiers inscrits en tant que broker sur la bourse de ce marché qui s'appelait Power Next au départ en 2006, qui est devenu appelé après Blue Next, qui appartenait à 40% à la Caisse des dépôts et consignations et 60% à la société Nice Euronext. Pour vous situer, la Caisse des dépôts et consignations en France, c'est l'équivalent de la Réserve fédérale banque aux États-Unis. C'est-à-dire, c'est la caisse, c'est la banque de l'État. Et si vous voulez, moi étant inscrit chez eux, je vendais pas à des entreprises, je leur vendais à eux. C'est-à-dire c'est l'État français qui me payait toutes les transactions, les quotas carbone que je leur vendais, avec cette fameuse 20% en plus, cette fameuse TVA. Et attendez, ça va encore plus loin que ça. C'est qu'on leur présentait une facture française avec de la TVA française et ils nous payaient ça sur des comptes chinois. Qui, je vous rappelle, la Chine est un pays qui est non signataire du protocole de Kyoto. Le manège, il a duré, sans faire de mauvais jeu de mots, parce qu'on appelle ça du carrousel de TVA en Europe, il a duré 16 mois en France. Parce qu'il a continué après dans d'autres pays. Parce que les Français, ça a été les premiers avoir été impactés. D'accord. Et moi, j'étais le premier à l'avoir fait. Et tout à l'heure, vous avez dit le cerveau. Enfin, moi, je me suis jamais auto-proclamé cerveau de quoi que ce soit. C'est juste lorsque j'ai été jugé et condamné en septembre 2017, les magistrats qui m'ont jugé, ils ont dit Grégory Zaoui est l'inventeur, ingénieur, concepteur de la fraude à la TVA sur les quotas carbone. Donc, et après, à partir de là, tous les journalistes, ils ont repris le terme Grégory Zaoui et le cerveau, toute cette histoire, parce que moi, j'avais détecté cette faille avant tout le monde. Maintenant, pour vous répondre, moi, personnellement...
Mais comment ça, eux, ils n'avaient pas pensé à cette faille-là?
Ben, vous savez, je dis une phrase très forte dans le documentaire qui a marqué beaucoup de monde, même si elle est un peu vulgaire, mais elle a marqué les gens, et des fois, vous savez, il faut les bousculer pour qu'ils comprennent. Vous savez, c'est comme les films de Scorsese, si c'est pas violent et s'il n'y a pas de sexe, le film marche pas. Donc moi ce que j'ai dit, cette histoire-là, c'est l'intelligence de la rue qui a baisé l'intelligence des grandes écoles. Parce qu'en face de nous,
exactement.
Voilà, c'est ça. On avait en face de nous des énarques, des polytechniciens qui font partie des élites françaises qui n'ont rien vu venir. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ces instructions-là de paiement qu'on leur donnait, enfin que je leur donnais pour payer la TVA française avec une facture française sur des comptes chinois, je le rappelle, pays non signataire du protocole de Kyoto. C'était les transactions qu'on envoyait des instructions par fax. Je ne sais pas si vous imaginez, ça veut dire qu'à la Caisse des dépôts et consignations, il y avait quelqu'un qui réceptionnait le fax, qui était écrit manuscrit. Ce qui nous donnait sorte de polycopier qu'on avait à l'école, et on remplissait la date, le jour, l'heure, le destinataire, enfin bref. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui prenait la peine de saisir ce fax. Et les instructions, elles étaient quand même en millions d'euros, et plusieurs fois par jour, sur plusieurs clients. Il y avait quelqu'un qui les saisissait, puis il devait certainement le valider, et ça devait être survalidé par un supérieur. Ça veut dire dans la chaîne, il y avait plusieurs personnes qui suivaient cette transaction, et personne n'a sourcillé. L'histoire, elle a duré 16 mois comme ça.
Mais c'est fou, et je reviens à cette phrase-là qui est intéressante, c'est que d'un côté... Il y a des banquiers, il y a l'Union européenne, il y a des bureaucrates, il y a des technocrates, il y a des gens qui ont été formés, tout ça. De l'autre côté, il y a des petits escrocs qui font des petites combines dans la rue à Belleville, puis tout ça, qui vont manger des chiches kebabs sur l'heure du midi, qui font des combines de téléphones cellulaires et tout. Puis qu'eux ont réussi à trouver l'affaire que ces gens-là, hyper intelligents, hyper formés, ne voyaient pas, alors qu'elle était grande comme une grotte devant eux.
Non, ceux à qui vous faites allusion, en fait, c'est... Enfin, j'ai rien contre les gens qui mangent des kebabs et qui habitent dans les quartiers parisiens pas très chics. Parce que moi, je viens de banlieue, enfin de Paris. Si vous voulez, c'est que un jour, ils ont su que moi, je faisais ça. Et j'avais déjà ma réputation parce que j'avais fait d'autres choses dans d'autres exploits avant celui-là. Et ils ont voulu faire comme moi. Donc ils n'étaient pas inscrits en direct à la bourse. Ils sont passés par des brokers comme moi j'étais broker pour pouvoir eux passer leurs ordres d'achat et de vente de ces fameux quotas carbone avec les achats sans TVA avec des sociétés étrangères ou alors acheter depuis l'étranger et la vente en France avec de la TVA française. La TVA en France, ça veut dire taxe sur la valeur ajoutée. Il y en a partout sur tout et ils en ont mis sur cette bêtise là. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ils ont commencé à s'apercevoir de ce qui s'était passé en janvier 2009 et ils ont arrêté d'appliquer la TVA à partir de juin 2009.
Parce qu'ils ont vu que c'était là.
Il y avait un problème, dans les caisses, parce que c'est quand même une fraude qui a coûté, en gros, aujourd'hui, entre 5 et 7 milliards d'euros. C'est-à-dire que pour vous donner une proportion, tout à l'heure vous l'avez dit, et c'est vrai, c'est la plus grande fraude de tous les temps en termes de montant et de rapidité dans le temps.
C'est ça, parce que Bernard Madoff a fraudé, mais c'était sur de longues années, etc., sur toute sa vie, toute sa carrière. Vous, c'est une fraude qui a duré un an et demi.
Même pas. Mais c'est pas ça, Madoff. Je vous expliquais. Madoff, tout le monde au début avait dit oui, il y en a pour 51 milliards de dollars. Si vous avez vu le documentaire sur lui, moi je l'ai découvert il n'y a pas très longtemps, sur Netflix, en fait, c'était pas 51 milliards, c'était 19 milliards de dollars. Et sur les 19 milliards de dollars, ils ont réussi à faire un recouvrement à hauteur de 14 milliards. C'est-à-dire que la fraude Madoff, c'est 5 milliards sur 40 années. La fraude à l'État, la fraude au quota carbone en Europe, en France en tout cas, c'est entre 5 et 7 milliards sur 16 mois.
Mais vous, personnellement, vous avez participé à frauder combien d'argent à l'État français?
Ben écoutez, même moi, je sais pas. Je vous promets, je sais même pas parce que j'étais.
Vous nagez dans le fric.
J'ai commencé. Ouais, c'est-à-dire, j'ai pas réalisé. C'était tellement évident pour moi que j'ai pas. Je tenais pas une comptabilité. C'est-à-dire, ça rentrait tellement que des fois j'avais besoin d'argent liquide. Je me faisais livrer à Paris par les Chinois des sommes que j'avais besoin, 200, 300 000 euros. Quand j'en avais pas besoin, ils me faisaient des virements ailleurs ou ils gardaient mon argent. Enfin, c'était...
Est-ce que vous êtes parti au Québec, il y a une expression, on dit partir sur une balloune, c'est-à-dire partir flamber son fric, louer des avions, aller à Vegas, mener le gros train de vie. Là.
Alors moi, paradoxalement, ce que vous avez pu voir sur le documentaire Netflix, moi je suis un garçon qui ne boit pas d'alcool, qui n'a jamais fumé, qui n'a jamais pris de drogue et qui ne joue pas au jeu de hasard. Je ne vais pas au casino.
OK, parce qu'il y a une petite gang d'escrocs qui sont devenus multimilliardaires du jour au lendemain et puis sont partis. Là,
ils ont fait un peu n'importe quoi leur argent. Moi, ça n'a pas été mon cas. Je suis, une autre éducation.
Est-ce que vous trouvez que les gens qui, comme moi, paient régulièrement leurs taxes et leurs impôts, qui respectons la loi, qui sommes des citoyens exemplaires, est-ce que vous trouvez qu'on est cons?
Pas du tout. Vous êtes des gens honnêtes et c'est totalement respectable. D'ailleurs, moi, je vais vous dire, j'ai fait 3 erreurs. Dans cette histoire qui aujourd'hui fait que je suis là devant vous. La première erreur, c'est l'avoir fait. Il fallait pas le faire.
Mais l'occasion fait le larron.
C'est une grave erreur. La deuxième
La faille est là et je peux seulement, de quelques clics de mon ordi, devenir multimillionnaire.
Exactement.
Moi, je poserais la question à des gens, est-ce que ça vous tente?
Mais vous n'avez pas besoin de la poser, c'est que moi, les gens viennent à moi pour me dire, moi, je l'aurais fait. Mais moi, ce que je leur dis à ces gens-là, c'est est-ce qu'après, derrière, vous êtes prêt à assumer tout le SAV qui va avec? Parce que ça a impacté ma vie, ça a impacté la vie de ma famille, ça a impacté la vie même de ma belle famille, de mes amis, enfin d'un tas de gens. Même moi aujourd'hui, je suis impacté pour un.
Oui, mais c'est parce que vous avez été pris. Si, bien sûr. Mais si vous n'avez pas pris, si vous n'avez pas coffré, vous auriez continué.
Non, j'ai été pris, mais moi j'ai accepté, puisque moi je me suis rendu à la justice. C'est-à-dire, moi, j'ai décidé de me rendre parce que je voulais.
Après, une cavale, quand même, là.
Oui, non, mais c'est-à-dire, moi, j'ai décidé à deux reprises de me rendre. Je me suis rendu les deux fois parce que je voulais en terminer et je voulais retrouver ma liberté. Je l'ai fait. Donc, je vous ai dit, il y a 3 heures que j'ai fait de l'avoir fait. La deuxième, c'est de l'avoir divulgué à certaines personnes qui, eux, l'ont divulgué à d'autres jusqu'à que ça se retrouve dans les gens dans lesquels vous avez pu voir dans le documentaire Netflix. Et la troisième erreur, c'est d'avoir sous-évalué la réaction des pouvoirs publics. Parce que pour moi, si vous voulez, c'était tellement gros que l'État puisse me payer autant d'argent dans des pays tels que la Chine.
Mais
je me suis dit, le jour que ça va péter, c'est tellement honteux pour eux qu'ils allaient mettre la poussière.
On voit dans le documentaire, parce que vous avez testé au début, lorsque vous voyez la faille, en disant, mais est-ce que je rêve là où il y a une possibilité de faire... Donc vous avez testé, vous avez fait un test avec 30 000 euros.
C'est ça.
Vous avez ajouté la TVA de 20%, donc 36 000 euros. Vous avez empoché 6 000 euros en quelques secondes.
Quelques secondes, oui.
Quelques secondes.
Quelques secondes.
Clic, boum, 6 000 euros entrés dans votre compte de banque.
C'est ça.
Et là, c'est difficile de dire non après ça.
Ben, c'est-à-dire
c'est
même...
voit que c'est aussi rapide que ça.
On a du mal à y croire, surtout. C'était aussi simple.
Là, vous étiez, ça se peut pas. Il y a une attrape, il y a quelque chose. Là.
Et c'est l'État qui me paye. C'est la Caisse des dépôts et consignations qui me fait
le virement. C'est l'État qui vous paye.
C'est la Banque de l'État, la Caisse des dépôts. C'est la réserve fédérale, l'équivalent aux États-Unis.
Mais c'est ça un scandale. En même temps, vous avez fraudé, vous avez agi de façon malhonnête. Est-ce que vous le regrettez?
Complètement. Si c'était à refaire, je ne le ferais pas.
Ben, vous avez de l'argent encore de caché, là.
Si c'était à refaire, je ne le ferais pas quand même. Je ne le ferais pas.
mais vous avez de l'argent caché quelque part.
Ça sera, vous le verrez dans la suite des Rois de l'arnaque. Je ne veux pas spoiler l'histoire.
On s'en va tout de suite à la pause. On revient pour parler de cette histoire-là que je trouve absolument passionnante avec Grégory Zaoui.